Organiste à Sainte-Chantal, professeur d'éducation musicale en faculté, chef de chœur, Joseph Roy pratiquait au quotidien son amour de la musique dans son activité professionnelle et dans ses engagements personnels. Toute sa vie était orientée autour du partage de la musique avec les autres. Il nous a quittés récemment. Nous vous proposons de réentendre son témoignage. Vie à cœur lui rend hommage aujourd'hui. Joseph Roy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes organiste à Sainte-Chantal, dont on a beaucoup parlé dans l'actualité dijonnaise la semaine dernière. Et vous êtes aussi président de l'association de sauvegarde de l'orgue de Sainte-Chantal. En quelques mots, pouvez-vous nous raconter l'histoire de cet orgue ?
Oui, alors je suis un organiste heureux, puisqu'on vient d'inaugurer le nouvel orgue de Sainte-Chantal. Mais c'est un instrument vraiment qui fait partie du patrimoine de Dijon. C'est un instrument unique qui a été construit pour la chapelle de la Providence, pour les sœurs de la Providence, à la fin du 19e siècle, par Jean-Baptiste Guisse, qui était un facteur d'orgue installé à Dijon, qui a construit la plupart des orgues de la région, comme ceux de l'église Notre-Dame, ceux de Saint-Michel, enfin il y en a beaucoup. Et Guisse était un excellent facteur d'orgue, et il avait fait cet instrument à la demande des sœurs, qui souhaitaient pouvoir animer leurs offices avec un bel orgue qui serait fait par le meilleur facteur d'orgue possible. Alors cet orgue est resté dans cette chapelle jusqu'à l'année dernière, mais la chapelle était désaffectée et les sœurs ont souhaité le vendre puisqu'elles ont bien vu que c'était dommage que cet instrument soit inutile. Et il se trouve que du fait de cet emplacement, cet orgue était le seul que Jean-Baptiste Guisse ait construit qui n'ait pas été transformé. Tous les autres, à Notre-Dame de Dijon, à Saint-Michel, enfin partout, tous les autres ont été plus ou moins transformés, parfois complètement. Alors, ça en fait un orgue témoin de ce qu'on faisait comme facture d'orgue à la fin du 19e siècle, d'où le concept, on va dire, d'orgue historique et le concept surtout de patrimoine dijonnais. Quand les sœurs ont dit qu'elles voulaient s'en séparer, Maurice Clerc, l'organiste de la cathédrale, a attiré l'attention de la ville de Dijon et a dit « ce serait quand même dommage que cet orgue quitte la ville ou la région ». Et c'est comme ça que petit à petit s'est mis en place le projet avec notre association. Nous avons convaincu les collectivités locales d'acheter cet orgue, de le remettre en état et de l'installer à Sainte-Chantal.
Quelle joie maintenant de redonner naissance à cet orgue. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière avec le festival d'inauguration et un certain nombre de concerts pour faire vivre et écouter, entendre cet orgue.
Oui, alors il est vraiment magnifique parce que Guy, c'était un facteur de grand talent qui construisait des orgues très soignés et on a pu entendre que vraiment l'instrument avait des timbres tout à fait raffinés et en même temps s'adaptait parfaitement au volume sonore de l'église Sainte-Chantal. C'est vrai que c'est quand même assez exceptionnel comme opération puisque cet orgue, si vous voulez, est comme au premier jour, mais il a retrouvé, comme vous l'avez dit, sa jeunesse, hein, parce que il faut bien dire qu'avec les années qui passaient, la poussière qui s'accumulait, l'instrument qui se déréglait, il était quand même un petit peu endormi. On avait enregistré il y a quelques années un CD témoignage avant qu'il soit démonté à la Providence. Aujourd'hui, on a enregistré un autre CD. Quand on écoute les deux, on voit qu'effectivement, il a retrouvé la jeunesse.
Vous vibrez en parlant des orgues. Vous êtes vous-même organiste. À quel âge est-ce que vous avez commencé l'orgue ?
J'ai découvert l'orgue assez tôt, quand j'étais au collège. Ça a été un choc pour moi. Je trouvais que cet instrument était quand même vraiment impressionnant. Et je voyais les organistes qui jouaient avec les mains, avec les pieds, qui tiraient des sons extraordinaires de leurs instruments. Et j'ai eu tout de suite envie d'apprendre. C'était vers 13-14 ans. J'ai donc commencé le piano, puis ensuite, au conservatoire de Dijon, j'ai appris l'orgue.
Qu'est-ce qui vous a attiré, justement ? Est-ce que c'est l'instrument ? Assez médusant, effectivement, instrument avant, on joue avec les pieds, avec les mains. Est-ce que c'est la musique que vous entendiez, que vous aviez envie de produire ? Est-ce que c'est le sacré, si on
peut
dire ?
C'est plutôt la musique et l'instrument lui-même. D'abord, c'est vrai que le répertoire d'orgue est immense. On a à notre disposition de la musique depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, donc tout ce qu'on veut comme style de musique, musique sacrée, musique profane, tout ce qu'on veut. Et puis, c'est vrai aussi que l'instrument en lui-même, c'est quand même extraordinaire parce qu'il n'y a jamais deux orgues semblables. Alors les organistes et les amateurs d'orgue sont un petit peu des passionnés, même beaucoup. Et il court les orgues, il court les concerts pour juger, pour écouter, pour comparer. Rien que sur la ville de Dijon, quand on regarde un petit peu les instruments, on voit par exemple à Saint-Pierre qu'il y a eu un orgue qui a été construit dans le style italien. On voit qu'à Talent, c'est pas Dijon, enfin l'agglomération, on a construit un orgue plutôt de style baroque allemand. On voit qu'à la cathédrale, on a à la fois un grand instrument du 18e français et en même temps un orgue du 20e siècle. Au temple, c'est un autre concept. Enfin, voilà, on a partout des instruments très très différents. À chaque fois, on a un grand plaisir à les découvrir, à essayer leur sonorité, et c'est vraiment extraordinaire, ça.
Alors, en tant qu'organiste, quel est le rôle de l'orgue dans une église? Il accompagne les célébrations, il est outil de prière. Comment est-ce que vous voyez votre rôle d'organiste au sein d'une communauté paroissiale?
Alors déjà, moi, comme je le pratique à Sainte-Chantal, c'est vrai qu'on est vraiment au sein d'une équipe. Hein. On prépare les offices ensemble et on essaie de choisir ce qui convient le mieux pour les paroissiens, pour la prière. Le rôle est double. L'organiste a deux fonctions. Il doit, de nos jours, beaucoup accompagner le chant. Et c'est quelque chose qui n'est pas si simple qu'on pourrait le penser, en ce sens où il faut être vraiment à l'écoute des gens, il faut pouvoir les soutenir et les aider, peut-être un peu les stimuler aussi. Enfin voilà, c'est vraiment une technique. Et en même temps, l'orgue a un certain nombre d'interventions en soliste dans les offices, et on essaye qu'évidemment elles soient le mieux adaptées à ce qui se passe, au déroulement de l'office et aussi au texte du jour. Enfin, ça mérite quand même un peu une préparation fouillée. Et il est vrai que comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de répertoires à notre disposition, on peut s'adapter au mieux, mais c'est vraiment pour nous quelque chose de passionnant.
C'est donc un choix en lien avec la liturgie. Vous n'arrivez pas en disant, tiens, j'aime bien ce morceau, c'est ce que je vais jouer. Vous avez...
C'est évident qu'on ne joue pas les mêmes choses pendant le carême ou avant Noël. Voilà, on a effectivement, enfin je caricature un petit peu là,
bien sûr.
On a effectivement un choix important, et je crois que moi j'ai la chance de travailler dans une paroisse où il y a beaucoup de musiciens, les animateurs sont très intéressés, le père Jobard, le curé de Sainte-Chantal, est très musicien lui aussi, donc il sait accorder de la place à la musique, et justement les organismes sont valorisés aussi, donc on a envie de s'investir encore plus, c'est vraiment très intéressant.
Et la musique favorise la prière?
J'espère.
Ou le recueillement?
J'espère, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Moi.
Et c'est une forme de prière pour vous, probablement,
oui,
que
tout
de
à fait.
Jouer?
Une prière dans l'action, on va dire.
Joseph Roy, vous nous proposez d'écouter un prélude de Mendelssohn.
Oui, alors c'est le tout nouveau disque du nouvel orgue, allons-y pour les nouveaux, de Sainte-Chantal. On a voulu marquer cette inauguration et par tout un tas d'événements, vous le savez. Et l'Association des Amis de l'Orgue s'est entendue avec une grande maison de disques allemande, la maison IFO. Et nous avons sollicité Daniel Roth, qui est l'organiste de l'église Saint-Sulpice à Paris, qui est venu au mois de février enregistrer un disque qui est en fait un récital de musique romantique, dont nous allons entendre un extrait. Je crois que c'est un disque vraiment fantastique parce que Daniel Roth s'est senti magnifiquement à l'aise sur cet orgue. Il l'a beaucoup apprécié et je crois qu'il va nous le faire découvrir dans les moindres détails. Alors ce prélude de Mendelssohn est à l'origine une œuvre pour piano qui a été transcrite et ça s'adapte magnifiquement à l'orgue.
Vous êtes sur RCF, dans Vie à cœur. Nous écoutons avec émotion Joseph Roy, qui, décédé il y a quelques jours, témoignait le 9 mai 2005 de sa vie en musique. Joseph Roy, en dehors des fonctions d'organiste de l'église de Sainte-Chantal de Dijon, vous êtes professeur d'éducation musicale à l'IUFM.
C'est ça. Alors là, c'est un tout autre domaine. L'IUFM, c'est l'Institut universitaire de formation des maîtres. Et nous avons la charge de préparer les futurs enseignants, aussi bien pour l'école primaire que pour le collège. Moi, je m'occupe essentiellement de formation du premier degré pour les professeurs des écoles.
Pour les professeurs, donc les petits-enfants. En clair, vous apprenez la musique à des instituteurs qui eux-mêmes retransmettront cette musique aux enfants.
Alors, je leur enseigne comment on fait de la musique avec les enfants. Mon rôle, c'est de leur dire, ben voilà, si vous voulez apprendre une chanson, si vous voulez faire jouer des instruments, si vous voulez faire écouter de la musique aux enfants, en fonction de l'âge, voilà comment on s'y prend. C'est de la pédagogie musicale, on va dire.
Alors, en deux mots, comment fait-on ? Je suppose qu'on ne peut pas balayer le programme en entier.
Non, mais ce qui est vraiment essentiel quand même, c'est de savoir que, contrairement à des idées répandues, il n'y a pas besoin d'être un technicien pour faire de la musique avec les enfants. Bien entendu, il y a des choses que seuls les spécialistes peuvent faire. Mais quelqu'un qui s'intéresse à l'éducation musicale, à la musique en général, qui a envie de chanter, peut parfaitement faire des choses très très utiles et fondamentales dans sa classe avec les enfants, que ce soit en maternelle ou que ce soit avec les plus grands en CP, CM1, CM2. Alors c'est une question de pédagogie beaucoup plus que de compétences techniques.
Si on chante faux, on arrive à faire chanter les enfants.
Alors, vous savez, c'est une légende, hein. Les gens qui chantent faux, il y en a très très peu en fait, hein. La plupart des gens qui pensent qu'ils chantent faux, c'est pas vrai. Ce qui manque à beaucoup de gens, c'est de la pratique. Et quand on leur fait découvrir ce que c'est que la pratique et la voix, c'est ce que je fais au quotidien avec mes élèves, mes étudiants. Quand on leur fait découvrir ce que c'est que la voix, très vite, ils se convainquent qu'eux aussi peuvent y arriver.
Vous faites des sortes de jeux de rôle, vous mettez vos étudiants en position d'enfant et vous travaillez avec eux pour leur montrer à quel résultat vous pouvez aboutir.
Oui, c'est plus plutôt que l'idée de jeu de rôle, c'est surtout pour qu'ils aient eux-mêmes pratiqué les activités que je leur propose. Et en le faisant, ils comprennent comment ça va fonctionner dans la tête des enfants. Et du coup, ça nous permet aussi d'être en situation, de leur faire essayer ce que c'est que donner un exemple pour un chant, quelques gestes de direction, comment on fait une écoute, quelles activités on peut proposer. Et on essaye tout. Et ensuite, eux, quand ils vont en stage, eh bien, ils le font dans leur classe.
Le premier instrument étant la voix, ils ont aussi la possibilité peut-être d'utiliser des petites percussions, d'autres instruments.
Oui, tout à fait. Dans les programmes de l'école, il y a non seulement des percussions, des instruments, mais il y a aussi un concept très intéressant qui est celui des objets sonores, c'est-à-dire des objets de la vie courante avec lesquels on apprend à produire des sons. Et c'est assez étonnant de voir que les enfants sont très très à l'écoute de ces objets sonores, presque plus que des instruments, et que ça développe chez eux des compétences assez étonnantes, très très pointues. Les enfants, quand on leur demande par exemple d'illustrer un album en produisant des bruitages, arrive à faire des choix très très fins et très pertinents.
Justement, quel est l'objectif peut-être au-delà de la musique, où la musique leur permet peut-être d'acquérir des qualités de travail de groupe, des qualités d'écoute?
Alors oui, c'est vrai que la musique a des tas d'aspects transversaux qui sont fondamentaux. Vous parlez du travail de groupe, c'est vrai, l'aspect socialisant de la musique, quand on chante ensemble, on est sur un projet commun, c'est évident. Il y a aussi un aspect qui a été montré par des études scientifiques de l'Université de Dijon qui a dit que quand on fait pratiquer la musique de façon intensive aux enfants en maternelle, ils apprennent beaucoup mieux à lire et à compter. Ça a été scientifiquement prouvé. Ça devrait d'ailleurs donner des idées à nos gouvernants.
Mais enfin, la musique est presque mathématique dans sa façon.
Oui, la musique dans sa structure est très logique, donc ça aide beaucoup pour les mathématiques. Mais au-delà de ces aspects transversaux de la musique, il y a quand même l'essentiel qui est de pratiquer, de se faire plaisir en produisant des chants, en produisant des morceaux instrumentaux tous ensemble. Et puis de se former petit à petit à l'écoute, se former à juger, à savoir motiver ses jugements. Et c'est vraiment quand même la construction de la personnalité.
Et quel est le répertoire qui est touché par les enfants ?
Un répertoire, on va dire, adapté au niveau des chants, c'est-à-dire qu'on a des chansons pour les petits, des chansons pour les plus grands, en fonction de thèmes qui les intéressent. Hein, avec, il y a beaucoup de musiciens qui écrivent des choses très très intéressantes pour les enfants. Il y en a des moins bien et plus commerciales, mais enfin bon, voilà, nous on travaille avec des publications quand même très sérieuses. Et en ce qui concerne l'écoute, alors là, il n'y a pas de limite. C'est, on peut faire écouter aux enfants tout ce qui est possible comme musique, aussi bien des musiques du monde que des musiques classiques, que des musiques contemporaines, que des musiques de variété, de qualité. Enfin, on a vraiment le choix. Je dirais que cette diversité est essentielle. Ce qui compte, c'est d'écouter le plus de choses possible avec le plus de variété.
Vous suscitez une envie musicale plus grande chez vos élèves. Est-ce que le fait de toucher cette matière, qui est une matière au démarrage pour eux, les amène à pratiquer la musique de façon...
Écoutez, je suis un peu mal placé pour le dire, vu comme vous le demandez, mais ce que je constate, c'est que moi, aussi bien que tous mes collègues enseignants dans les IUFM, on a les mêmes résultats, à savoir qu'une fois que les jeunes, les étudiants, les stagiaires ont pratiqué, eh bien, ils sont convaincus qu'eux aussi peuvent y arriver et peuvent faire des choses intéressantes, et ça me paraît vraiment positif. C'est un déclencheur.
Vous nous proposez maintenant d'écouter un chant Renaissance.
Oui, c'est un chant interprété par une chorale que je dirige, dont on va parler, qui s'appelle Il est bel et bon. C'est un classique, on va dire, des chants de la Renaissance. Et c'est une petite histoire un petit peu amusante de deux dames qui papotent ensemble et qu'on compare à des poules qui caquettent.
Organiste, professeur d'éducation musicale, Joseph Roy était aussi un chef de chœur aimé et reconnu sur Dijon. Il évoquait sa passion du chant choral.
Le chant choral, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Un de mes vraiment premiers chocs musicaux, c'était... j'étais adolescent. Quoi. À Autun, il y avait une grande rencontre de chorale de toute l'Europe. Il y avait 2000 chanteurs et je me suis pointé là-bas un peu par hasard et je suis tombé au milieu de ces gens qui chantaient en polyphonie comme ça. Ça a été un grand choc. Et vraiment, ça m'a donné cette passion. J'ai après énormément pratiqué le chant choral. J'ai dirigé beaucoup de chorale, un peu de tout style, un peu de toute taille. Hein. Et c'est vraiment pour moi un domaine privilégié parce que je pense que le fait de chanter en chœur, évidemment, tout ce qu'on en sait, c'est le plaisir d'avoir un projet commun, c'est le plaisir d'unir les voix, mais c'est aussi quand même une manière de se dépasser pour monter des musiques qui sont parfois au premier abord un peu difficiles, puis qu'on apprend à connaître et qu'on vit de l'intérieur.
Vous êtes chef de chœur de deux chorales actuellement.
Oui, actuellement, j'ai une chorale dans un cadre professionnel. Hein. J'ai une chorale donc d'étudiants et professeurs stagiaires à l'IUFM, avec lesquels on essaie de pratiquer tout un tas de répertoires. Et c'est assez extraordinaire parce que c'est pour eux une découverte. La plupart n'ont jamais chanté dans une chorale. Et puis j'ai une chorale qui s'appelle À travers chants, qui est une des plus vieilles chorales en fait de l'agglomération dijonnaise. C'est l'ancienne chorale de l'école normale. Je crois qu'elle a été fondée dans les années 30, je ne sais pas exactement. Et moi, je l'ai reprise il y a une dizaine d'années. Je lui ai peut-être aussi redonné une nouvelle vie. On est maintenant, il y a une soixantaine de chanteurs. On pratique un répertoire assez éclectique, mais avec, comme on vient d'entendre, beaucoup de chansons Renaissance. Parce que je trouve qu'il y a un répertoire assez fantastique dans la musique française de la Renaissance. Et ça permet quand même musicalement de travailler assez en avant.
À travers chant, CH.
Ah oui, c'est H-A-N-T-S, c'est un jeu
d'accord.
De mots qui date pas d'aujourd'hui. Hector Berlioz l'a déjà utilisé pour le titre d'un de ses ouvrages. C'est vrai que ça nous convient bien, on traverse tout un tas de chants. Oui.
Les choristes sont des amateurs,
bien
on
sûr,
est d'accord.
Oui, des amateurs dont un bon nombre quand même ont des connaissances musicales et ont envie de progresser, s'investissent énormément. C'est une chorale qui a une vie assez dynamique, on donne quand même 12-15 concerts par an, un petit peu dans toute la région. On a déjà eu des échanges internationaux et on a l'intention de recommencer. Donc c'est une chorale assez dynamique. On travaille chaque fois qu'on le peut avec des musiciens professionnels, avec un pianiste, avec parfois des orchestres. Voilà, on essaie quand même de...
Ça fait quasiment un concert par mois.
Oui.
Ça fait un répertoire à chaque fois nouveau.
Non, quand même pas. Non. On monte à peu près 3 programmes dans une année, hein, avec des choses qui tournent. Et puis on essaie de diversifier nos choix. Enfin, c'est ce que je leur propose, en tout cas, puis ça a l'air de leur convenir, mes chanteurs.
Justement, quelle est la différence entre une chorale et une autre? Est-ce qu'il y a une âme, une essence dans chaque chorale, un esprit? Est-ce qu'il est fait par le maître de chœur ou donné par les personnalités des 60 choristes qui font une émulsion particulière?
Ben, c'est comme dans tous les groupes. Hein. Dans tous les groupes, il y a des personnalités plus fortes que d'autres. Il y a des gens qui s'affirment plus que d'autres, d'autres qui ont un rôle plus discret mais qui est présent quand même. Il est évident que dans une chorale, il y a en fait un lien individuel entre chaque chanteur et le chef et qu'il faut que ce lien fonctionne. Quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise avec un chef doit changer de chorale. Donc, tant que les gens restent dans la chorale, c'est que le chef leur convient, on va dire. Mais je dirais, oui, c'est aussi une question de fonctionnement, à savoir que si la façon de travailler pendant les répétitions, le rythme qu'on adopte dans le travail, la façon dont les relations se font entre les gens fonctionne bien, eh bien, la chorale peut progresser. Alors moi, j'ai beaucoup de chance parce que c'est vrai que les enseignants que j'ai dans ma chorale sont très motivés. En plus, j'ai la chance d'avoir, on va dire, ce qu'on appelle des chefs de pupitre, c'est-à-dire des gens qui font répéter chacun des pupitres séparément, ce qui nous gagne du temps. Alors, on est pas mal organisé et ça nous permet d'avancer.
Vous êtes vous êtes tombé dans le monde de la chorale depuis très longtemps. Est-ce que vous sentez à l'heure actuelle l'effet choriste? Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle? Enfin, est-ce que...
Je dirais que ça m'interpelle presque plus au niveau professionnel, dans ma formation des enseignants. Mais moi, ce qui m'a plu dans ce film, c'est que déjà, pour une fois, on donne une image positive de la musique, alors que souvent, on a tendance à la caricaturer. Et puis, surtout, ça donne une image tout à fait réelle de ce qu'est le chant choral. Alors, c'est un petit peu traité à l'ancienne, c'est dans un cadre spécial. Mais le plaisir que ces enfants ont à chanter, et cette recherche quand même commune de la perfection, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et c'est bien comme ça qu'on le vit aussi bien dans les chorales d'enfants que dans les chorales d'adultes.
Et ça correspond à un besoin humain d'être ensemble, de produire quelque chose ensemble.
Tout à fait. Et c'est la motivation de toutes les chorales. Ensuite, ce qui diffère, c'est le niveau d'exigence musicale et les répertoires. Donc chacun s'adapte en fonction de ce qu'il a envie de faire et choisit sa chorale en fonction de ça.
Ce que vous disiez, tout amateur est capable pourtant d'arriver à un niveau musical.
Absolument. Il y a d'ailleurs beaucoup de chorales justement qui ne sont composées que d'amateurs. La majorité des chorales, c'est ça. Les chorales professionnelles, c'est très rare. Mais en fait, l'intérêt, c'est qu'on peut se réaliser parce qu'on est dans un groupe. Et le fait de monter ces projets tous ensemble... Peut-être qu'on ne serait pas prêt à monter sur une scène tout seul pour chanter une chanson, mais le faire dans un chœur, ça ne pose pas de problème, on se sent en sécurité et on peut donner le meilleur de soi-même.
Alors, quels sont les rendez-vous prochains pour votre chorale de...
Alors, nous allons donner un certain nombre de concerts au printemps. On doit chanter au mois de juin pour l'Estivade. Un petit peu avant ça, on va donner, comme chaque année, un concert à l'église de Couchet. Ça va se passer, si ma mémoire est bonne, le 31 mai. On doit chanter dans des maisons de retraite dijonnaises, on doit chanter pour la fête de la musique. On a toujours beaucoup, beaucoup de projets. En attendant l'année prochaine, un voyage à Florence.
Quand vous chantez dans les maisons de retraite, vous chantez avec les retraités ou vous chantez pour eux?
C'est un aspect qui est très, très important pour nous parce que justement, cette joie qu'on a à se retrouver et à partager notre musique, on aime bien la communiquer. Et on se donne pour mission chaque année d'aller chanter dans des maisons de retraite. On chante aussi régulièrement à la Mirandière et ça nous paraît important de partager.
Joseph Roy, souhaitons que d'autres projets jaillissent de votre passion. Merci d'avoir partagé avec les auditeurs d'RCF cet amour de la musique dont vous témoignez à chaque instant dans votre vie.
Merci.
Cette émission avait été enregistrée le 9 mai 2005. Joseph Roy nous a quittés récemment. C'est en son hommage que nous venons de réécouter son témoignage dans Vie à cœur.